Entre Fayard et Sapa.
Entre Plaine et Doline.
Les voies furtives.
Entre Mobilette et Silex.
Entre Scooter et Petra.
Les voies se glissent.
Double Blafip.
Chèvre et Cochon.
Les voilà qui rebondissent.
Dans la bergerie.
Dans le garage.
Dans la dameuse.
Dans le chasse-neige.
Et le tunnel.
Les voix se choquent et s'entrechoquent.
Et toc.
Grotte profonde.
Crête vantée.
Boulangerie.
Cours d'école.
Des voix sur un plateau.
Une émission.
Tout en Vercors.
Bon appétit.
Bonjour Bernard.
Bonjour Annette.
Alors, ça va par ce froid qui arrive ?
Ce froid qui arrive, normal, nous sommes en hiver quand même. Presque.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, t'as vu ? Ça y est, on a enfin réussi à ranger notre bois.
Ranger, oui, mais il va falloir encore le prendre, le porter et le mettre dans le poêle. C'est des bois qui chauffent trois fois. Une fois quand on le coupe, une fois quand on le range, une autre fois quand on le porte. Ah ! Et une quatrième, donc il brûle, il
quand
chauffe
on
quatre
le brûle.
Fois. Enfin, si c'est du bon bois, on verra ça tout à l'heure.
Ça, on vous le dira dans les autres émissions.
Oui, et puis Madame Barakan nous expliquera qu'est-ce que du bon bois, surtout.
Bon, et d'ailleurs, le bois, en fait, bon, on a vu la semaine dernière que...
Ah ben, on chauffera pas les éoliennes.
Les éoliennes, c'est pas pour tout de suite Avation Vercors, mais l'énergie bois... Par rapport à la planète, Bernard, t'en penses quoi ?
Ah ben les énergies bois, j'en pense que c'est évidemment une énergie renouvelable. Non seulement elle est renouvelable, bon, évidemment la forêt est un milieu riche et qui permet à des tas d'animaux d'exister, avoir une grande biodiversité, mais ce qu'il faut dire, c'est que le bois va stocker aussi le carbone. Donc le monoxyde de carbone, l'arbre l'attrape et le stocke en bois, en dur.
Ah, d'accord.
Voilà, donc en fait... À chaque fois qu'on plante un arbre, eh bien, on va stocker un petit peu le carbone. C'est pour ça qu'une maison en bois, on appelle ça un puits à carbone.
Puits à carbone.
Voilà. Donc, quand tu construis une maison en bois, tu fais un puits à carbone. Tu stockes le bois. Bon, il faut dire qu'un jour ou l'autre, il reviendra dans la nature. Il ne va pas être éternel ton puits à carbone. Mais c'est vrai qu'il faudrait planter énormément de bois. Donc, quand on détruit les trois quarts de la forêt amazonienne, ce qui n'est pas le cas en France... évidemment, on va détruire une grosse partie du poumon, qu'on appelle le poumon donc, de la planète, qui stocke le monoxyde de carbone. Et comme on en produit beaucoup plus, tu sais, qu'est-ce qui va se passer ? Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les gaz à effet de serre. Donc, en fait, eh bien, plus il y aura de gaz à effet de serre, plus il y aura des perturbations climatiques. Malheureusement pour nous, ça ne veut pas dire qu'il va faire chaud cet hiver. Donc, il faudra quand même ranger notre bois. Et surtout le mettre dans le poêle.
Bon, et on a planté des arbres, alors c'est bien.
Voilà. Mais je vais te dire un truc, c'est que quand tu l'as mis dans ton poêle, c'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Il faut du papier d'abord.
Alors, je te conseille de pas prendre n'importe quel papier. Il faut prendre les papiers les plus terribles, les mieux, ceux que tu as envie de te débarrasser. D'ailleurs, c'est Massilia qui me l'a dit.
Ah ouais ?
Alors, cette chanson est dédicacée à Noé, car je sais qu'il va allumer un grand feu avec tous ces petits papiers d'acidiques.
Bon, la chose qui vient est spécialement dédicacée à tous les ragamuffins qui allons tasser de subir tout le temps des tonnes de papier dans nos boîtes aux lettres accumulées. Il faut répondre à tout le monde et je commence à être fatigué. Oh, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre cool dans la partie. Oh oui, mais de la bureaucratie, je subis les requêtes. Depuis bien trop d'années, j'ai un câble qui pète. Je craque une allumette tout au fond de ma tête. Ma flamme virtuelle aussitôt se projette. J'allume un feu de joie, on va faire la fête. Ce soir, je fais cramer ces putains de papiers. Mais pour de ces papiers, je te libère ces papiers. Pour de ces papiers, je te libère ces papiers. Pour de ces papiers, je te libère ces papiers. Pour de ces papiers, je te libère ces papiers. Les factures et les lettres d'huissier. Les PV, les notes d'électricité. Les impôts et les quittances de loyer. Les tracts et les publicités. La lettre qui dit que tu es licencié. La cédique et ces putains de courriers. Tous ces tracas que le facteur t'a apporté. Mais si le feu est bien avec nos beaux légués. Mais pour de ces papiers, je te libère ces papiers. Pour de ces papiers, je te libère ces papiers. Pour de ces papiers, je te libère ces papiers. Pour de ces papiers, je te libère ces papiers. les magazines qui te font fantasmer, les programmes électoraux des députés, les interdits prononcés par le préfet, toutes les affiches que le FN a collées, tous les sondages qui sont faits pour t'espionner, les bulletins et les programmes télé, les emboucans, les lettres recommandées. Mais si le feu est bien avec nos beaux légués, pour ces papiers, je te débrouille ces papiers. 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 Les sermons enflammés de tous les curés, les certificats d'hébergement pour les immigrés, le découvert notifié ce matin par ton banquier, les bulletins de santé, les bulletins de moralité. Arrêtez avec tous ces papiers, ils me rendent faux. Arrêtez de m'inonder, je n'en peux plus du tout. Vous me persécutez, vous me poursuivez de partout. Arrêtez, je vais craquer, je vous le dis entre nous. Mais... Pour ces papiers, je te débrouille ces papiers. Pour ces papiers, je te débrouille ces papiers. Pour ces papiers, je te débrouille ces papiers. Comment, de quoi, pourquoi peut-on m'empêcher de travailler, de m'éclater, de méditer, de chanter? Pourquoi avoir à remplir tout le temps des tas de papiers? Obligé, contraint, forcé, je me sens oppressé par la masse de documents sur mon bureau éparpillé. Mais si tu veux, toi aussi, en être débarrassé. Mais si le feu est bien avec nous pour les gays. Mais si le feu est bien avec nous pour les gays. Mais pour ces papiers, je te débrouille ces papiers. 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 Mais arrêtez avec tous ces papiers, ils me rendent faux. Arrêtez de m'inonder, je n'en peux plus du tout. Vous me persécutez, vous me poursuivez de partout. Arrêtez, je vais craquer, je vous le dis entre nous. Mais arrêtez avec tous ces papiers, ils me rendent faux. Arrêtez de m'inonder, je n'en peux plus du tout. Vous me persécutez, vous me poursuivez de partout. Arrêtez, je vais craquer, je vous le dis entre nous. Hey, pour ces papiers, je te débrouille ces papiers. 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 Pour ces papiers, je te débrouille ces papiers.
Alors là, moi, je suis trop d'accord. Brûle ces papiers, je te les brûle ces papiers. Il y en a tellement, tellement, tellement. Ah, je vais brûler, brûler, brûler. Je vais pouvoir allumer plein de feux.
Non, mais tu peux faire même. tu sais bien que l'arbre fournit le papier, hein. Et donc, tu peux faire des bûches en papier. Hein, avec un compresseur de papier, et tu peux refaire des bûches en papier.
Trop bien.
Trop bien. Hein. Donc, tu choisis pas n'importe quel papier. Hein,
ah non, non, il n'y a pas de problème, il y a le choix, Marc.
Voilà, voilà. Tu me laisses l'outilleur auvergnat pour pas faire de pub. tu me laisses là où il faut, hein, parce que ça, c'est toujours très, très intéressant à lire, c'est très intellectuel. L'outilleur auvergnat, c'est super.
Bon, mais dis-moi, Bernard, il paraît que tu as été dans le Royan pour comprendre un peu la filière bois.
Bah, c'est surtout parce que dans notre bois, nous avons du bois sec, mais du bois qui peut être très très sec. Et effectivement, j'ai expérimenté le bois très très sec, et ça ne chauffe pas du tout pareil. Donc en fait, c'est important quand même de dire à nos auditeurs que si on brûle du bois très sec, eh bien on se chauffe beaucoup mieux. Alors même s'il est un peu plus cher, eh bien ce bois-là vous chauffera plus. Et non seulement ça, et en plus, il protégera plus la planète, puisque d'une façon ou d'une autre, vous en brûlerez moins. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont l'entreprise Barakan donc, sèche le bois. Alors on va découvrir ça. Ils ont fait une plateforme bois.
Vous avez investi dans une plateforme de bois énergie, alors?
Oui, oui, en 2004.
D'accord.
On a décidé, on s'est lancé, hein, on s'est dit, d'ailleurs, on a eu un peu le nez, dans le sens où ben, c'est juste avant le premier choc à peu près pétrolier. Hein, il y a eu le boom, donc le premier... le premier choc pétrolier, et qui fait qu'il y a eu un engouement sur le bois de chauffage. Voilà.
D'accord, un réengouement, puisque c'est vrai que sur le Vercors, énormément de gens se chauffaient au bois, et puis le particulier voilà, a décidé de...
Dans notre région, hein. Mm-hmm. Il faut savoir que maintenant, le profil de la clientèle a changé,
d'accord.
Et que l'on a une clientèle qui est beaucoup plus, on va dire, citadine,
d'accord.
Qui se met au bois de chauffage, ou de façon, on va dire, d'appoint,
mm-hmm.
Ou alors, bon, effectivement que le bois de chauffage, voilà, en chauffage principal.
Donc il faut, quand ça brûle, il faut que ça chauffe, hein, Madame Baratan, c'est bien ce que j'ai compris.
Parfait, voilà, et voilà. Donc, ça monte en température, et pour cela, il faut vraiment que votre bois soit extra sec. Ça, c'est la condition la plus importante, on va dire, pour que vous ayez un très bon...
Alors, qu'est-ce qu'on appelle du bois sec? Parce que sec, comment nos auditeurs peuvent savoir si leur bois est sec? Qu'est-ce qu'on appelle du bois sec? Parce que quand on achète du bois, il est toujours sec. C'est bizarre. Hein? Quel qu'il soit l'endroit où il vient, il est toujours sec.
Tout à fait. Alors, le problème, justement, dans la profession, c'est qu'on se heurte, malheureusement, à des personnes des qui vont vous proposer du bois, mais qui n'ont pas forcément la culture du bois. Hein, ça peut être... il faut savoir que dans cette profession, on a 80% quand même de bois qui est commercialisé de façon souterraine. Donc ces personnes-là n'ont pas forcément une éthique, voilà.
Et techniquement parlant, est-ce que nos auditeurs peuvent savoir si leur bois est sec ou pas? Est-ce qu'il y a une méthode?
La méthode, c'est qu'il faudrait qu'ils aient un testeur, mais le problème, c'est qu'il y a pas, c'est pas forcément facile de trouver ça. Ils s'en aperçoivent malheureusement que quand ils vont le consommer.
On s'en aperçoit aussi.
À l'intérieur de leur insert ou de leur poêle, il y a de l'eau qui sort. Bah, effectivement, tout de suite, la personne va se dire, le bois, il n'est pas sec. Oui. Ou alors, c'est un bois qui va se consumer, qui ne va pas monter en température.
Alors, moi, on m'a dit, alors vous me direz si c'est faux, on m'a dit, ici, il faudrait prendre un morceau de bois, le peser avant, le mettre dans son four pendant son four à gaz, pas à fond, pas le faire cuire à fond, mais le mettre à 200 degrés pendant une soirée. Ouais. Et le repeser après, comme ça on aurait vraiment à savoir si le taux d'humidité est parti. C'est pas une mauvaise méthode.
Écoutez, je sais pas, ça c'est bien la première fois que j'en entends parler.
Ah bah c'est une méthode qui me semble correcte.
Ça peut se faire, je sais pas.
Bah, faudra que vous nous teniez au courant.
Je trouve que c'est le parcours du combattant pour le consommateur qui chauffe au bois.
Alors, on voit la différence quand on prend un morceau de bois sec, hein, et que je crois que c'est la meilleure des méthodes pour essayer, c'est que le soir, on met deux morceaux de bois sec dans la cheminée, ça chauffe complètement différemment.
Voilà, tout à fait. Mais bon, le consommateur, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est quand même la profession essaye de se...
Alors, il n'y a pas de normes.
De se fédérer.
Il n'y a pas de normes.
Et il y a quand même des professionnels qui peuvent vous proposer du bois extra sec.
Alors, il y a une charte ou qu'est-ce qui se passe?
Voilà, bah, disons que nous, dès 2004, nous avons fait notre propre charte parce que justement, c'était très nébuleux au niveau de la profession. Il n'y avait rien qui pouvait donc donner aux consommateurs justement des références. Donc nous, on a fabriqué notre propre charte. Hein, donc on a été vraiment précurseur là-dedans. Maintenant, il faut savoir que, comme je vous ai dit, on est les producteurs sérieux se regroupent dans des fédérations comme par exemple RA2B, hein, Rhône-Alpes Bois-Bûche. Donc ce sont des professionnels qui s'engagent à vous dire exactement ce qu'ils livrent. Donc ça sera peut-être pas forcément du bois extra sec parce que malheureusement le bois extra sec pour en avoir ou ça va être du séchage naturel, mais c'est très long.
Hein. Combien d'années faut-il compter?
Eh bien il faut compter 1 à 2 ans en fonction de l'essence. Donc vous voyez les stocks que ça représente, donc c'est énorme. Donc quand vous en avez un petit peu, une fois que vous en avez plus, vous en avez plus, parce que le bois, il sèche, on va dire, d'avril à août-septembre, après c'est terminé. Vous ne pouvez pas faire du... Même si je fends du bois maintenant et que je veux le faire sécher, le bois ne séchera pas.
D'accord.
Hein, il y a de l'hygrométrie dans l'air, ça ne fera pas. Donc une fois que vous avez fini votre stock, c'est terminé, vous ne pouvez plus en proposer. Donc justement, cette fédération, je veux dire, ces producteurs qui s'engagent justement dans cette charte, s'engagent à dire « j'ai du bois sec » ou « je n'ai pas du bois sec » et qui vous le disent lorsqu'ils vous livrent. C'est-à-dire que si son bois n'est pas sec, il doit s'engager à vous le dire.
D'accord. Voilà. Alors,
déjà, c'est un gros progrès par rapport
Mais alors, on en revient quand même. Est-ce que c'est sec plus ou moins sec? Sec plus ou moins... Est-ce qu'il y a un taux, un chiffre?
En fait, c'est le taux d'humidité. Il faudrait que le...
Vous, par exemple, vous le vendez à combien de taux?
Le bois a un taux d'humidité inférieur à temps.
Hein, d'accord.
Inférieur à 25%. Il est entre 25 et 35%. Ben ça, c'est du bois demi-sec.
Demi-sec.
Il faut finir de faire sécher encore 6 mois, voire un an, en fonction de, comme je dis, de l'essence.
D'accord.
Ou alors du bois de l'année, hein, du bois vert qu'il faut faire sécher 1 à 2 ans. Voilà.
D'accord. Donc vous, vous avez mis en place, grâce à un... Vous pouvez expliquer le procédé de votre séchoir solaire.
Alors, le séchoir solaire, donc on a investi, donc justement, à cause de, du fait qu'on n'avait plus de bois. Avant, on le faisait de façon naturelle. Mmh. Donc, il arrivait au mois de novembre-décembre, à cette période-là, où on n'avait plus de bois extra sec.
D'accord.
Donc, on a essayé de trouver une solution pour pouvoir sécher du bois, mais de façon, on va dire, on ne voulait pas utiliser ni du fioul, ni quoi que ce soit. On voulait que ça soit, que ça soit naturel.
Hein. Ah, faut donc, dire, on a faut dire, écologique,
donc,
écologique.
Donc, on appelle à la fois au solaire, mmh. pendant l'été, d'accord. et pendant même maintenant, pendant les périodes quand c'est ensoleillé. Mais je ne vous cache pas que quand c'est l'hiver, le soleil n'est pas tout le temps là. Mmh. Donc, il est couplé avec deux chaudières.
D'accord.
On appelle à de la plaquette forestière. Alors, d'accord. cette plaquette forestière, vous allez me dire, ben, c'est quand même du bois que vous allez brûler, donc ce n'est pas très énergétique. Si, dans la mesure où, comme nous sommes exploitants forestiers, hein, nous sommes pas exploitants forestiers, nous avons toujours des, comment dire, des chutes de bois ben, que l'on vend à la trituration. Hein, donc, c'est du bois qui est broyé.
D'accord.
Donc, en fait, ce bois, ben, nous le gardons pour nous, nous le broyons, et ça nous permet de faire un complément lorsque le soleil n'est pas présent. Voilà.
C'est-à-dire
donc,
que physiquement parlant, ça fait... Ça fait des, une grande surface où vous avez des capteurs
voilà,
solaires.
Donc la serre, elle fait, on va dire, entre 15 et 18 mètres, 15 mètres de large, 18 mètres de long.
Ah, c'est une serre.
C'est une immense serre, mmh. hein, mmh. En polycarbonate.
D'accord. Vous avez quelque chose de noir qui attire la lumière? Comment ça marche, en fait?
Ben, il y a une grande plaque noire hein, en haut du séchoir.
D'accord.
Qui va accumuler la chaleur.
D'accord.
Cette chaleur va être ventilée, parce qu'il y a des très gros ventilateurs.
D'accord.
Ils vont être ventilés à travers les bûches. Et il y a des très gros ventilateurs donc, qui ventilent et qui vont propulser à travers les bûches pour enlever l'humidité du bois.
D'accord. Voilà. Donc votre bois est tout rangé, tout pour que l'air puisse circuler.
Voilà, donc c'est mis dans des paniers, hein, des très grosses caisses.
D'accord.
Fabriquées spécialement.
D'accord.
Et pendant, on va dire, entre 11 et 17 jours, hein, tout dépend de la saison. Mm-hmm. Donc,
une température à combien alors à peu près quand, en journée quand il fait chaud?
Pardon?
La température de la serre, c'est?
Ah, ben c'est très... Disons que c'est pas forcément une température, c'est une hygrométrie.
L'hygrométrie, oui.
Qui est enlevée au fur et à mesure donc, de l'avancée donc, du séchoir.
D'accord.
Et c'est de l'eau qui va partir, qui va s'évacuer. Il y a des clapets. Hein, disons que c'est tout... c'est tout programmé. Hein, on ne peut pas dire qu'on va arrêter avant ou pas. Hein, c'est vraiment c'est piloté hein, par une grosse armoire électrique qui pilote et qui fait toute le process, on va dire, du séchage.
D'accord. Hein. Donc là, si vous êtes un peu innovant dans la matière, sur le secteur, ou bien vous êtes plus...
Oui, ben, disons qu'on est le troisième en Rhône-Alpes.
D'accord.
Non, le premier en Rhône-Alpes.
En Rhône-Alpes, bravo.
Voilà.
Hein, c'est prendre le risque.
C'est vrai que ça a été un sacré pari quand même, parce qu'au début, on en avait vu deux, hein, donc voilà, mais c'était quand même, on ne savait pas trop comment on se lançait. Mais bon, on a cru en nous et effectivement, on a eu quand même des partenaires très efficaces qui nous ont soutenus, notamment l'ADEME,
d'accord,
la région, l'Europe,
d'accord.
Le Conseil général aussi, hein, puisqu'il a fallu faire compléter aussi avec des bâtiments, hein, donc au niveau de l'immobilier, on a été aidés aussi. Et c'est vrai que je les remercie énormément parce que tout seul, je pense qu'on aurait hésité, même si maintenant on n'hésite plus, hein, c'est
d'accord.
sûr.
Non, mais là, on voit votre qualité.
On propose du bois extra sec toute l'année, même en période, comme par exemple l'année dernière où il a fait si froid,
d'accord.
en février, on a pu proposer du bois sec à des personnes qui malheureusement n'avaient plus de bois. Donc voilà, on ne regrette pas l'investissement. Ça a été assez long à mettre en place aussi. Hein,
bien, sûr, ouais,
pas facile.
Pas
reste,
bien sûr, oui.
Mais voilà, on ne regrette pas l'investissement.
L'entreprise Barracan, qui est au contrefort du Vercors, vous êtes situé à Saint-Laurent, c'est ça?
Voilà, à Saint-Laurent-en-Royans, au pied du Vercors. Hein, donc on est au milieu d'un massif forestier hein, qui est très bien entretenu. Hein. Notamment, effectivement, il y a des forêts particulières. Hein.
Bien sûr.
Il y a aussi l'Office national des forêts mm-hmm. hein, qui entretient donc on est quand même, il y a pas mal de forêts qui sont gérées par l'Office national des forêts.
Ça représente combien de salariés parce que je pense que vous travaillez aussi, vous sous-traitez pour les bûcherons et choses comme ça, mais combien de personnes vous faites travailler en...
Eh ben écoutez, nous, au niveau de l'entreprise, on est 9, mais avec les sous-traitants qui vont du bûcheronnage au débardage, voire même jusqu'au transporteur, on est en pleine saison jusqu'à, on va dire, 15-20 personnes.
Ah, d'accord, ça fait quand même...
Donc, ce sont toutes des personnes qui sont, on va dire, locales. Mm-hmm. Donc, on fait travailler du personnel de la région et on y tient. Voilà.
Hein, c'est
bien souvent, ce sont des personnes qui ont une autre activité l'hiver. On va dire, par exemple, dans les stations de ski, qui sont moniteurs ou qui ont d'autres...
Bien sûr.
Voilà, donc, et l'été, ils travaillent en forêt.
Et le pelé, le bois en...
Granulé de bois, oui.
Oui, vous faites ça aussi?
Alors, nous, on ne le fait pas, mais on commercialise. On commercialise un granulé de bois qui est fabriqué juste à côté, toujours pareil, dans le cadre du circuit court, qui est fabriqué...
Du quoi, pardon, je sais pas, du quoi?
Dans l'Isère.
D'accord.
Au Chélard, donc c'est le granulé Alpénergie Bois. Donc c'est un fabricant de la région, donc on a l'exclusivité dans le secteur, dans la Drôme, une partie Isère, et dans l'Ardèche aussi. Donc c'est un très très bon granulé qui est fabriqué à basse température et qui est, je insiste, à 100% à base de sciure de résineux. Donc ça, très important, donc un très bon granulé. Voilà.
D'accord. Bon, donc si on peut résumer, l'entreprise Barakan, c'est efficacité, rentabilité. Et pour la planète, vous pensez quoi alors, vous?
Eh bien, écoutez, moi, je dis que de plus en plus, là, il faut savoir que dans le cadre du Grenelle de l'environnement, d'ici 2020, 20% de l'énergie consommée en Europe devrait être renouvelable. Mmh. Donc, je pense qu'on est dans le bon secteur. Hein, on est dans on a le vent en poupe, effectivement. Mais j'insiste, il faut que l'on propose aux clients du bois de qualité. Voilà. Parce que le bois est un peu décrié en ce moment parce qu'on dit qu'il pollue, parce que voilà. Alors pourquoi il pollue? C'est pas, bien au contraire, il pollue beaucoup moins que le fioul, que le gaz ou l'électricité. Par contre, là où il est décrié, c'est quand on brûle du bois qui n'est pas sec.
Alors là, de plus, le bois qui n'est pas sec pollue plus. Bon, on va informer tous nos auditeurs, Madame Barakan. Et puis, je vous remercie de ce petit temps que vous avez pris pour nous.
Merci donc, à vous d'avoir contacté.
Eh bien, et puis à très bientôt. Donc, on mettra le lien de votre site. Je pense que vous avez un site.
Oui, bien sûr.
Voilà, on mettra le lien pour nos auditeurs sur notre... Voilà. Eh bien, on mettra le lien sur notre radio. Et puis, c'est avec plaisir qu'on leur reprendra contact, peut-être pour une autre émission. Merci. Merci bien, Madame Barakan.
Merci.
Au revoir.
Je pense à où je veux aller et à où j'ai déjà été. Le lien commun de ces idées, c'est que nulle part je ne veux rester. Dune de sable et mur de pierre n'en retiendront guère la goutte d'eau qui veut tomber. Jeté dans la mer. Le plus grand qui m'a dit, petit, peux-tu comprendre, à pas de fou. Jamais rien ne sera trop loin. Dune de sable et mur de pierre me retiendront guère la goutte d'eau qui veut tomber pour se jeter dans la mer. Dans la souffle frais, souffle le vent de tout. corps, de ton feu je me sens fort. Terre, mer, protège-moi. Je suis la preuve de votre foi.
Et là, c'était Chant d'Hélium de Marie-Jo Thériault.
Marie-Jo Thériault, on la repassera un peu. Et si tu as envie de pleurer, Annette, je sais qu'est-ce qu'il faut mettre.
Non, ça, t'as pas loin.
Si, bah, hey, écoute. Alors, si vous voulez regarder sur Internet pour savoir qu'est-ce qui fait pleurer Annette, eh bien, vous mettez Évangeline de Marie-Jo Thériault, notre petite Acadienne. Qu'on n'entend pas souvent sur les ondes françaises, mais qu'est-ce qu'on les entend au Québec. Dis donc, alors, t'as vu ce beau bois bien sec?
Ce bois bien sec. Alors, je suis d'accord qu'effectivement, quand on a du bois bien sec, il chauffe beaucoup mieux. Ça, c'est indéniable. Mais par contre, ranger le bois, c'est quand même lourd, hein ?
Ah, mais tu crois quoi ? Tu crois qu'on n'a rien sans rien, la crise de tabernacle, quoi ? C'est pas comme ça que ça se passe, hein ? Le bois, c'est comme ça, mais... Eh ben, je peux te dire que dans le Vercors de Dieu, ben là, on est malin, parce que le bois, on l'a rendu liquide. On boit pas que des liquides, hein. On l'a rendu liquide le bois des. Ah mais, c'est ça que. Ah mais là.
Comment ça on l'a rendu liquide?
Ah ben, si tu le mets dans le tracteur, ça marche pas, mais ça marche quand même dans la chaudière. Là, il fallait y penser. Mais oui. Et puis depuis un certain temps, je crois que le Vercors est quand même vraiment par rapport à ça est vraiment démonstrateur de. D'une politique non seulement qui a été mise en place sur la plaquette bois, donc ce sont du bois qu'on va passer dans une énorme machine qui va couper le bois en tout petites plaquettes, que ce soit n'importe quel type de bois, on va le stocker, le faire sécher un peu, et puis après, eh bien, grâce à une vis sans fin, comme on amène le grain, tu vois, une grosse vis sans fin, eh bien, ça part d'un endroit, d'un CIO, et ça va directement dans une chaudière. Effectivement, il a fallu quand même que ces chaudières soient un peu au point, il y a eu quelques déboires, sur Vassure-Vercors, où la chaudière a tellement chauffé qu'elle a chauffé l'atmosphère, elle a failli chauffer l'école. Elle était placée entre l'école et une bouteille de gaz, une grosse bonbonne. Je peux te dire que le fil électrique, il est tombé sur la bonbonne, mon dîne, un peu plus, ça faisait boum. Ah mais, on n'est pas là pour rien. Mais alors donc c'est vrai que...
Ah, mais quand même, c'est une bonne idée, ouais.
Voilà, et puis après, c'est vrai que le bâtiment collectif est à Vassure, eh bien, il y a plusieurs... plusieurs appartements, plusieurs maisons. Il y a même le grand centre de vacances du Piroulet, c'est pas rien. Une piscine hein, qui chauffe donc avec le bois comme ça, une chaudière à plaquettes. On a aussi, on verra avec Pierre-Yves, d'autres bâtiments. Et Pierre-Yves qui s'occupe de la communauté de communes, eh bien, je l'ai rencontré. Et eux aussi, il y a plein de projets parce que c'est pas fini. Il faut utiliser ces énergies renouvelables, non pas pour les 20% du Grenelle, mais parce que c'est évident. C'est évident puisque non seulement... Elle crée de l'oxygène, c'est que le bois crée de l'oxygène aussi quand il pousse et quand il grandit. Mmh. Il stocke le gaz carbonique et en plus, c'est local. Donc, on ne dépend pas de d'autres formes d'énergie, hein, donc, que ce soit pétrole ou autre. Et puis, personne ne s'est fait irradier par le bois encore. Voilà. Donc, j'ai rencontré Pierre-Yves.
Bonjour Pierre-Yves. Vous êtes responsable à la communauté de communes, de l'énergie, de l'environnement. Qu'est-ce que vous faites exactement ?
De la structure, je ne suis pas forcément responsable de l'énergie. l'énergie, de l'environnement, mais j'ai une formation en environnement à la base. Oui.
D'accord. Et depuis que vous avez pris votre poste, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites au niveau du bois déchiqueté, c'est ça?
Il y a eu effectivement une politique appliquée par rapport à la bois énergie, donc le bois déchiqueté, les plaquettes forestières, avec une accentuation de cette politique ces dernières années, là, depuis 2 ans.
Sur la communauté de communes, ça représente plusieurs chaudières?
Alors sur le territoire, sur le canton du Vercors, ça représente plusieurs chaudières publiques et privées.
Mmh.
Avec la plus importante qui est la chaufferie collective de Vassieux-en-Vercors, donc qui est gérée par le syndicat d'énergie de la Drôme, donc le ZED.
D'accord.
Depuis la rénovation de la chaufferie.
D'accord. Et pour nos auditeurs, au niveau bâtiment public, il y aurait quels bâtiments qui sont chauffés donc sur le territoire du Vercors?
Alors sur le territoire du Vercors, les bâtiments les plus anciens, je dirais, qui se sont mis chaufferie bois déchiqueté, on a le collège, donc qui est géré par le département de la Drôme. Donc la chaufferie du collège chauffe l'ensemble du bâtiment du collège, ainsi que le gymnase qui est géré lui par la communauté de communes. Donc le collège c'est aussi le chauffage des chambres, puisqu'on a un internat au niveau du collège Sport Nature de la Chapelle. Ensuite on a également nos bureaux au niveau de la Chapelle en Vercors, donc la maison du paysan du Vercors, qui est équipée d'une chaufferie bois déchiqueté.
D'accord. Et le département a aussi, non, il me semble, Herbouilly, il y a d'autres mairies.
Alors il y a d'autres structures publiques après, notamment au niveau d'Herbouilly, effectivement, de l'auberge de Roibon, donc qui est gérée par un privé. On a des structures comme à Saint-Martin où on a une chaufferie bois au niveau des bâtiments de l'école. On a maintenant aussi des musées comme le musée de la préhistoire ou le mémorial qui au niveau du col de la Chaux sur Vassieux, qui sont chauffés de la même manière, mais c'est beaucoup plus récent. Ensuite on a aussi des projets hein, au niveau des communes, membres de la communauté de communes, notamment sur Saint-Agnan. La Chapelle, il y a quand même des réflexions importantes qui ont eu lieu sur le chauffage éventuellement de la piscine, de l'école. Voilà. Après, c'est assez complexe parce que ça engendre des réseaux plus ou moins importants. Et dès qu'on parle de réseau, ben, c'est des coûts qui grimpent en flèche plus on est dans le réseau. Quoi.
D'accord. Il faut que la chaudière soit à proximité de l'endroit où, évidemment, où ça doit chauffer.
Oui, en fait, il faut limiter le linéaire, forcément, pour limiter les frais d'investissement. Après, pour amortir le coût des chaufferies, l'idéal, c'est d'avoir aussi un réseau qui concerne un maximum de personnes. Donc, l'idéal, c'est effectivement d'installer ce type de système sur des zones denses. Après, c'est pas forcément notre fort au niveau de notre territoire, mais bon, on a quand même... tirer la matière première pour le fonctionnement de ces chaufferies à proximité. Donc,
D'accord, mais ça doit faire des gros investissements. Vous avez des partenaires d'État qui soutiennent ce genre de projet?
Alors, ces projets sont soutenus par l'ADEME.
Mm-hmm.
On a également des soutiens au niveau du département et au niveau de l'Europe, via l'ADEME notamment et via la région.
D'accord, donc j'apprendrai pas à nos auditeurs qui suivent nos émissions que ceci est pour réduire les gaz à effet de serre.
Essentiellement, oui, bien entendu. Bon, il y a cet aspect environnemental qui est loin d'être négligeable et c'est pour ça qu'il y a des soutiens. Hein. Après, il y a aussi un intérêt économique pour notre territoire, on va dire. Après, enfin, dans le terme de l'écologie, on prend en compte aussi bien l'environnement que l'économie, je dirais, de manière durable. C'est pas parce que ce schéma est idéal pour nous qu'il est idéal pour un territoire où on a très peu de couverture forestière, mais on peut avoir, je dirais, d'autres matières premières naturelles à exploiter comme l'éolien ou le solaire, quoi.
Nous avons parlé de l'éolien ancestral la dernière émission. C'était assez sympathique. On a vu que nos amis du quasiment du Moyen-Âge avaient exploité l'éolien. Nous, on a un peu du mal sur le Vercors. Mais ça sera une autre émission et on espérera que le vent soufflera à nouveau. Je voulais aussi te demander, Pierre-Yves, donc j'ai entendu parler de projets sur Vassion-Vercors. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, on a un projet au niveau de la communauté de communes de réalisation d'une plateforme de stockage de plaquettes. Alors, c'est quoi une plateforme? Ben, c'est simplement un hangar où on peut stocker de la plaquette forestière pour pouvoir après le redistribuer au niveau territorial sur les chaufferies en fonctionnement. Les chaufferies publiques et les chaufferies privées. Donc c'est un projet qui a été imaginé à la base par le précédent président Régis Malsan, qui à l'époque était aussi maire de La Chapelle et qui était président des communes forestières. Donc cette plateforme est en réflexion, c'est vrai, depuis bientôt 4 ans.
Le bois va commencer à fermenter, on va pouvoir faire du biogaz si ça met autant de temps.
En fait, la difficulté qu'on a eue au niveau territorial, hein, c'est un secret pour personne, puisqu'on a quand même communiqué dessus via notamment la Gazette intercommunale. Ça a été un problème de foncier, puisque la communauté de communes n'a pas de propriété foncière. Et la difficulté qu'on a eue, c'était de trouver effectivement un terrain susceptible d'accueillir ce hangar. Voilà. Donc il y a eu plusieurs propositions de terrain. Je dirais qu'il y en a eu au total sur le territoire une douzaine. Toutes ont été étudiées, mais on a souvent eu des problèmes, soit de classement de terrain, puisque le poste entre en ligne de compte.
Sans passer du coq à l'âne, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même un maillage assez serré donc au niveau administratif localement, qui fait que les projets prennent du retard. Peut-être nous trouverons peut-être aussi ce maillage difficile au niveau de l'éolien, puisque je vois que ça avance pas trop.
Eh bien, dis donc, Pierre-Yves, il lâche rien. Il lâche rien parce que, malgré tout, il continue à chercher son terrain pour mettre, enfin son terrain, je veux dire le terrain, pour mettre cette plateforme. Donc on va voir ce que c'est que le broyeur. Et il lâche rien parce que c'est vrai que c'est pas évident. Hein, moi, je le vois là, faire des dossiers, monter des choses et à tout ça, parce qu'en fait, c'est évident qu'il va falloir faire de l'énergie renouvelable. Hein. C'est évident qu'on a des ressources énergétiques.
Valoriser le bois.
Voilà, il faut faire vite, parce que si on veut que nos générations futures aient un lendemain un peu meilleur que ce qui est prononcé et ce qui est dit, hein, eh bien voilà, eh bien, il lâche rien. Donc, parce qu'il lâche rien, on va lui mettre un petit HK, on lâche rien, qu'est-ce que t'en penses, Annette? Il le mérite?
Il le mérite.
Alors, il le mérite, on lâche rien. C'est pas la première fois qu'on en passe dans l'émission. Hein. Allez, il lâche rien, Pierre, il lâche rien. 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 Allez, on lâche rien.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même. Et partout, la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place. On n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Et comme des cons, on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on est chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente de l'Airbus? Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme: se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal est bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien.
Pierre-Yves, il a rien lâché, hein, Walou.
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 Mais il a raison, il a raison, hein, pas lâché.
Ben non, donc avec nos amis HK, je pense qu'il n'y a pas de problème. HK, c'est Hakim et Karim, je crois. Dis, qu'est-ce que j'allais dire? C'est vrai qu'on devrait faire un prix du me lâche rien.
Hein, sur 107.5, mm-hmm. Radio d'Ivoire.
Et sur, nous sommes à la 10e émission, Annette.
11e émission des voix sur un plateau.
Ah, et qui aura le prix du lâche rien, hein, le LR. Le LR des voix sur un plateau. Bah, si le changement c'est maintenant, on va voir avec Pierre-Yves que c'est pas encore gagné.
Donc vous mettez une plateforme et qu'est-ce qui se passe, comment, quels sont les objectifs et un peu en description que ça va représenter quoi?
Alors l'objectif d'une plateforme bois déchiqueté, c'est du stockage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme en fait un hangar agricole classique qui s'étend sur entre 800 et 1000 m² au sol pour stocker en fait tous les besoins qu'on va avoir au niveau local pour alimenter les chaufferies publiques et privées.
En tonnage, ça représente énormément ou c'est un volume assez grand? Qu'est-ce que... C'est des ensilages, comment c'est, enfin, visuellement parlant?
En tonnage annuel?
Oui.
Bah en fait, c'est très évolutif. À l'heure actuelle, on a une idée du volume, enfin, on a une idée précise, de toute manière, du volume consommé sur le territoire. Sauf que bon, ce volume est appelé à évoluer aussi en fonction des projets. Projet à venir au niveau notamment de ce qui risque de se passer sur Saint-Agnan, de se développer, ça on ne sait pas encore précisément ce que ça va représenter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a 60% en tout cas de ce qui est consommé au niveau cantonal qui vient sur Vassieux.
D'accord.
Et parmi la totalité de ce qui est consommé, il y a 50% qui est à destination uniquement de la chaufferie publique de Vassieux. Quoi.
D'accord. Le bois doit être stocké à l'abri d'humidité, j'imagine?
Alors, au niveau de l'abri, oui, il faut que ça soit stocké à l'abri d'humidité. Il faut qu'on puisse aussi avoir un rapport de séchage intéressant, tout simplement pour permettre à la plaquette d'évoluer. Quoi.
Ah, mais à Vassieux, il y a du vent, ça doit être bon, ça.
Alors, le vent, le soleil est intéressant. Et en fait, pourquoi Vassieux? Ben, d'une part, au niveau foncier, c'est les seules solutions qu'on nous a proposées. Mmh. Et d'autre part, effectivement, en matière de déplacement, ça réduit de manière conséquente les distances de livraison, étant donné la consommation actuelle.
D'accord, par rapport
à ça, au niveau territoire, donc tout à l'heure, tu me demandais le tonnage. Donc à l'heure actuelle, on a 845 tonnes de bois sur le Vercors.
Wow.
Après, on sait que ça évoluera, mais faut pas non plus imaginer des projets comme on peut avoir à Pierrelatte avec des usines vraiment, des usines à gaz presque.
Attends, tu me parles de Pierrelatte, tu ne parles pas de la centrale nucléaire, j'espère.
Non, il y a un projet de...
Ah. Il va mettre une centrale sur Vassieux, ils ont trouvé une mine d'uranium.
Non, mais ça n'a rien à voir. En fait, nous, c'est du stockage, et au niveau de Pierrelatte, c'est quelque chose de beaucoup plus industriel.
D'accord.
Je dirais, il n'y a pas de process. Alors, effectivement, la question se pose du broyage, sauf que le broyage, après, ça dépendra de qui exploite le hangar. Mais de toute manière, le hangar n'est pas aménagé pour accueillir un broyeur fixe. Il sera pas fait pour ça, donc
des zones de chargement, des zones de stockage.
Il y aura chargement, il y aura éventuellement du broyage mobile effectué sur place. Donc ce qui représente à l'heure actuelle avec les volumes consommés aujourd'hui et les volumes je dirais à court terme qui seraient nécessaires, ça représente une vingtaine de jours de broyage. Entre 4 et 6 heures par jour de broyage, quoi.
Oui, enfin, d'accord.
Donc, ça reste raisonnable aussi, de toute manière.
De toute façon, il y a toujours une critique possible de l'impact, du visuel, etc. Et c'est normal. Il y a toujours des personnes pour faire évoluer le projet ou pour le freiner. Est-ce que vous êtes innovant justement au niveau du séchage du bois, ou alors vous êtes comparable avec vous êtes inspiré d'autre chose ou...
Non, on n'a rien prévu d'innovant comme tu dis au niveau du séchage du bois, sauf je dirais les méthodes on va dire naturelles. Mm-hmm. Parce que si jamais il faut également dépenser de l'énergie pour sécher ce bois, ça nous paraît pas forcément une bonne idée. Ça voudrait dire aussi qu'il faudrait se rapprocher d'un système de chauffage à proximité, ce qui n'est pas forcément le cas par rapport au foncier qu'on a trouvé, puisqu'on est assez isolé par rapport au bâti. La maison la plus proche, elle doit être à peu près 400 mètres à vol d'oiseau, quoi.
Bon, ben merci Pierre de toutes ces informations, et puis on retéléphonera pour savoir si le projet avance. En tout cas, bonne initiative sur le Vercors, puisque l'usage du bois, comme on a vu avec Madame Barracan, c'est peut-être pas très intéressant de le faire descendre pour le faire remonter,
ouais,
pour enfin le remettre dans sa chaudière pour après. Donc c'est un peu l'usage aussi du pétrole qui va avec, à moins qu'on ait des véhicules qui marchent au bois comme pendant la guerre. Mais c'est vrai que là, ça me semble d'une logique irréfutable. Donc j'espère que ce projet, on le verra. normalement, c'est prévu pour...
L'idéal, ce serait que pour l'hiver de l'année prochaine, on soit prêt à le faire, puisqu'à l'heure actuelle, en fait, on soit prêt à fonctionner. À l'heure actuelle, nous, on fait du stockage provisoire au niveau du hangar du collège, sauf que ce hangar-là est trop petit pour les nécessités du territoire, quoi.
D'accord. Bon, écoute, on se rappelle alors l'année prochaine.
Problème.
Pour le bois, en tout cas. Salut, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Eh bien, tu vois, eh bien, c'est avec joie, les joies comme nos petits amis québécois. Tu sais que c'est bien plus simple chez eux. Hein.
Ah, ça, c'est sûr, Chris.
Chris et Tabernacle, c'est bien plus simple. Bon, écoute, ça va se faire. De la bonne humeur. Eh bien, moi, je propose que ce hangar bois, eh bien, il supporte des panneaux solaires. Tu vois ?
Ouais, oui.
Ah, oui, parce que ça va être encore un hangar qui va supporter quoi ? Hein ? Si ce n'est que du panneau solaire pour tous. Pas du panneau solaire pour enrichir quelqu'un. Enfin, on en parlera un peu plus tard. Et puis, on parlera aussi de nos murs trombes, qui sont, tu sais, Annette, quelque chose d'une invention extraordinaire et tellement simple. D'ailleurs, c'est le mur trombe qui fait sécher le bois chez Barracan. Hein.
Et tellement simple, t'as raison.
Tellement simple. Oui. Dis, le bois, alors, qu'est-ce que tu as trouvé dans nos annales prêtées par nos amis ? Donc, le vent nous emporte.
Dans le petit livre « Le vent nous a compté », donc les petites histoires du Vercors qui ont été recueillies par l'association Vespa, tu te rappelles, la semaine dernière. Eh bien, j'ai trouvé une petite histoire sur le bois de la forêt de Lente.
Oh.
Du fait d'un plateau calcaire, les épicéas de la forêt de Lente poussaient très lentement. Dans les fissures de la roche, et donnaient un bois très dur. Ces bois servirent longtemps à faire des mâts de bateaux, et pour la construction des galères. une entreprise de la marine s'installa à proximité de Combes-l'Usine. Les troncs étaient descendus par des passages naturels appelés G, puis transportés par voie fluviale jusqu'au port de la Méditerranée, notamment Marseille, où là, on construisait des galères. Une autre grande activité régnait aussi dans ces forêts. Les charbonnières. Peut-être on pourra en parler une autre fois.
Ah oui.
Pour descendre le charbon de bois, les moines chartreux installèrent une machine, un système de câbles, au col de la machine. Est-ce là d'ailleurs l'origine de son nom, ça ? Permettant d'acheminer le charbon de bois destiné à alimenter les forges de la métallurgie de Saint-Laurent en Royan. Et ben voilà, c'était notre petite émission des voix sur un plateau. L'émission ouais. Bois.
Eh ben oui, une émission
et
bois.
Son énergie.
Dis donc, tu sais qu'est-ce que j'ai trouvé là tout à l'heure par terre ? J'ai trouvé un super petit border collie. J'en ai quelques-uns comme ça qui traînent sur les voies sur un plateau. Des petits border collies, des vrais, hein, ceux qui gardent les troupeaux. Alors il en reste encore un, j'en profite un petit peu.
Hein, c'est vrai qu'il y en a plein à la maison et ils sont beaux.
Alors là, à propos d'énergie, ceux-là, ils en ont. Hein. Donc, border collie, recherche petit maître, j'en profite un petit peu. Donc c'est le 04 75 48 29 48. Ils font pas de bruit, je voulais qu'il parle au micro, mais il veut pas parler, mais qu'est-ce qu'il est beau. L'image est là, présente, il est complètement endormi. Alors, eh bien, on se retrouve, je dis merci à Madame Barakan.
Merci aussi à Pierre-Yves. Hein.
Voilà, et puis merci à la technique, il y avait Jean-Loup.
Jean-Loup qui nous a bien aidé aujourd'hui. Ouais.
Bravo. Et puis, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour encore d'autres aventures sur Des voix sur un plateau, Annette.
Et à la semaine prochaine.
Me.